fin de journal. Ouli Maurer menace de briguer un autre département s'il n'obtient pas les moyens qu'il souhaite pour financer l'armée. Dans une interview à la Sonntags Zeitung, le ministre de la Défense évoque cependant un délai de 1 an, le temps d'éventuellement trouver une solution de financement. Il propose ainsi de fixer à 1% du produit intérieur brut le montant que la Suisse allouerait à la Défense. Ouli Maurer menace de changer de département, qu'il médite plutôt l'exemple de Max Weber. On écoute le conseiller national versougois Joseph Lang.
Il y avait dans l'histoire un conseiller socialiste, c'était Weber, dans l'année 53, qui a dit « quand sa politique de finances ne passe pas, il quitte le Conseil fédéral ». Après, il a perdu la votation populaire et il était conséquent, il a quitté le gouvernement. Je dis à Ueli Maurer, quand une décision du Parlement ou du peuple va contre son opinion, qu'il ne change pas de département, mais qu'il quitte le gouvernement, comme a fait M. Weber dans les années 50.
Des propos recueillis par Pascal Jeannerat. Journée explosive demain pour l'UDC Genève qui tiendra son assemblée générale en soirée. Ses membres voteront sur l'élection d'un nouveau président, peut-être même d'un nouveau comité directeur dans son ensemble. Ils voteront aussi sur l'exclusion ou non de Soli Pardo, membre fondateur de la section genevoise du parti. Le parti qui est miné par une guerre de clans depuis des mois. Le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, a défendu l'accord avec Jacques Chirac, un accord qui prévoit le remboursement à la municipalité du coût des emplois fictifs reprochés à l'ex-président et maire de la capitale. Le protocole d'indemnisation prévoit le paiement de plus de 2 millions d'euros. En échange, la ville de Paris retire sa constitution de parti civil. Pour Bertrand Delanoë, il ne s'agit nullement d'un arrangement.
Les avocats de Jacques Chirac demandent à la ville de Paris la possibilité de réparer. Je prends acte de cette demande, je ne négocie rien, et si tous les emplois fictifs sont reconnus et si tout est rendu aux Parisiens, je n'ai aucune raison de confondre justice et vengeance, d'autant que la justice continuera à suivre son cours. Mais je n'ai pas à m'acharner sur une personne. Si cette personne reconnaît les faits et répare, c'est à la justice de dire s'il doit y avoir autre chose, mais j'estimerai les Parisiens remplis de leurs droits.
Des propos recueillis à La Rochelle par Mehmet Gultas. La Rochelle, où le Parti Socialiste a clôturé aujourd'hui sa traditionnelle université d'été qui marque la rentrée politique du principal parti d'opposition. Galvanisés par les sondages, les socialistes sont apparus unis, notamment dans leur torpillage de Nicolas Sarkozy. La Cour de justice de la République chargée de juger les crimes et délits commis par des ministres en exercice pourrait être saisie dans le cadre de l'affaire Wörth. Le procureur général près la Cour de cassation réclame la communication de tous les éléments du dossier pénal susceptibles de concerner une éventuelle prise illégale d'intérêt ou un délit de favoritisme, notamment les soupçons sur le dossier fiscal de Liliane Bettencourt et l'embauche de Florence Wörth comme gestionnaire de fortune de la milliardaire. L'île de Sumatra, en Indonésie, est en état d'alerte maximum. Le volcan Sinabung est entré aujourd'hui en éruption après 4 siècles d'inactivité. Plus de 18 000 personnes ont été évacuées de plusieurs villages vers des villes plus sûres, selon des responsables des secours. Les cendres se sont dispersées jusqu'à 30 km du volcan. Au Pakistan, les eaux ont commencé à enregistrer une timide décrue, mais les flots de l'Indus menacent toujours 2 villes abandonnées ces derniers jours par plus de 400 000 habitants dans le sud du pays. C'est demain que débute le forage du puits destiné à sauver les 33 mineurs chiliens bloqués depuis 25 jours à 700 mètres sous terre. Ce trou vertical débouchera directement dans l'abri où les mineurs sont réfugiés, mais ils devront encore s'armer de patience car si la foreuse est capable de creuser 20 mètres par jour, elle devra d'abord forer un trou de 30 cm de diamètre, puis l'élargir à 60 cm. Et ce réalessage n'est pas une mince affaire. François Vuata du laboratoire suisse de géothermie.
Surtout de la fin du réalisage, avec le risque que le plafond de la galerie s'effondre vers la fin, c'est ce qui rend le réalisage délicat, surtout au bout. Apparemment, les mineurs ont beaucoup de place, ils ont 2 km de galerie, donc ils peuvent très bien s'en aller et pas attendre de recevoir les déblais sur la tête. Mais ensuite, c'est très possible qu'ils doivent dégager les déblais qui tomberont du trou pendant le réalisage.
Des propos recueillis par Silvio Dolzan. Plus de 5 milliards de dollars ont été gaspillés en Irak. C'est ce que révèle un rapport américain des services de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction en Irak. Des centaines de projets de construction ont été abandonnés ou sont inachevés, à l'instar d'une prison construite dans le désert près de Bagdad et restée vide. La somme envolée représente plus de 10% de l'enveloppe totale dépensée par les États-Unis pour rebâtir l'Irak, selon l'organisme de surveillance. Des acteurs et des dramaturges israéliens ont décidé de refuser de se produire désormais dans les théâtres situés dans les colonies juives de Cisjordanie, suscitant critiques et embarras au sein du gouvernement. Tout a commencé il y a plusieurs jours lorsque des personnalités du monde du théâtre israélien ont décidé de lancer une pétition contre l'ouverture prévue en novembre d'un théâtre national à Ariel, l'une des plus importantes colonies juives de Cisjordanie. De Tel Aviv, Aude Markovitch.
Il y a d'abord la décision des principaux théâtres israéliens de se produire dans le nouveau centre culturel de la colonie d'Ariel. Ariel, c'est l'une des villes israéliennes les plus importantes en territoire palestinien. Elle compte aujourd'hui 18 000 habitants. Elle se veut un fleuron du bien-vivre de l'autre côté de la ligne verte. Mais quand les directeurs de théâtre ont donné leur accord pour des représentations à Ariel, les comédiens se sont tout à coup souvenus que la ville était une colonie et que ses maisonnettes pimpantes aux tuiles rouges sont illégales du point de vue du droit international. Hier, une cinquantaine de comédiens ont signé une pétition affirmant qu'ils ne joueront dans aucune colonie de Cisjordanie. Cela a fâché le Premier ministre Netanyahou. Israël est souvent soumis au boycott à l'extérieur, alors c'est encore plus inacceptable quand ça vient de l'intérieur, de gens financés par l'État, a-t-il souligné. D'ores et déjà, des comédiens, dont le théâtre bénéficie de subventions publiques, ont assuré qu'ils camperaient sur leur position, quitte à perdre leur emploi. Aude Markovitch, Radio Suisse Romande, Tel Aviv.
Les abeilles étaient les vedettes ce week-end d'une toute nouvelle manifestation à Marcelin-sur-Morge dans le canton de Vaud, Happiculture. Il s'agit du premier salon roman d'apiculture, un salon qui a permis de rappeler l'importance du travail de pollinisation des abeilles pour notre alimentation. L'objectif était aussi d'attirer l'attention sur les parasites ou maladies comme la bactérie de la loque européenne qui décime des colonies entières en Suisse. Jacob Troxler, président de la Fédération faudoise des sociétés d'apiculture, avec Laurence Jobin.
Si l'apiculture veut survivre, elle est obligée de s'adapter et prendre des mesures pour avoir des colonies saines.
Que ça peut être les mesures?
Ça veut dire une bonne technique, faire les traitements au bon stade, au bon moment et appliquer minutieusement les recommandations. Ça ne permet pas de faire des mi-chemins à moitié en pêcheur. Une très bonne pratique apicole, un contrôle régulier, et dès qu'on décèle quelque chose, une petite anomalie, tout de suite avertir l'inspecteur du rucher du district pour contrôler et entreprendre des mesures tout de suite.
Sion s'est imposé 2-0 ce soir face à Young Boys, toujours en Super League. Lucerne et Thun ont fait match nul 1-1, 1-1 également entre Ballerzone et Grasshopper. En Challenge League, Lausanne Sport a battu Bienne 3-2, Stade Nyonnais et Kriens se sont séparés sur un nul 1-1. Et en Formule 1, Lewis Hamilton a pris la tête du championnat du monde. Il a remporté aujourd'hui le Grand Prix de Belgique. Le Britannique a mené la course de bout en bout devançant l'Australien Mark Webber, parti en pole position. La météo de Caroline Kenklis.
L'intervalle ensoleillé de la matinée n'a pas tenu toutes ses promesses. Il s'est laissé envahir par des voiles d'altitude qui nous ont abordés par le nord-ouest, s'épaississant et chargeant le ciel au fil des heures. Prémisse d'une nouvelle perturbation qui a allègrement chargé le ciel en soirée. Les précipitations seront effectives en milieu de nuit, en premier lieu sur le Jura, avant de s'étendre en toute région. Demain, la nébulosité sera omniprésente. On espère tout de même de brèves éclaircies en pleine. Les thermomètres resteront frileux avec 10 degrés à l'aube et pas plus de 14 à 16 degrés au maximum. Lundi après-midi, il semblerait que nous ayons à nouveau des pluies. Elles seront plus conséquentes le long des Préalpes en raison d'un effet de barrage. La limite pluie-neige s'abaissera même jusqu'à 1500 mètres, occasionnant quelques soucis sur certains cols d'altitude. Mardi, retour du soleil après les dernières précipitations de la matinée. Le mercure grignotera 2-3 degrés.